Alors, t'as prévu quoi au niveau du menu ce soir?
Je pensais faire des filets de dorade marinés au citron. Tu sais, avec une petite julienne de légumes romarin.
Ça va être excellent tout ça. Bon, je vais allumer le Weber et sortir la plancha.
Chérie, je vais pas faire ça au barbecue, c'est la tempête dehors et tombe des cordes.
Oui, et alors?
Avec les accessoires pour poissons, pizza et viande des Creative Pack, cuisiner sur votre barbecue Weber devient si facile et créatif que vous ne pourrez plus vous en passer. Weber, la gastronomie d'extérieur.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
La semaine prochaine, vendredi et samedi, se tiendront à Paris au centre Malesherbes de la Sorbonne, dans le 17e arrondissement, les 10e journées de l'histoire de l'Europe, organisées par l'Association des historiens. Une manifestation qui a évidemment retenu l'attention de Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Chaque année, ces journées de l'histoire de l'Europe sont un événement important. Elles réunissent une incroyable pléiade d'historiens et de conférenciers qui viennent confronter leur sensibilité sur un grand thème. Cette année, le thème en question est spécialement riche, puisqu'il s'agit de l'histoire culturelle de l'Europe de l'an 1000 à nos jours. Vous voyez, on a vraiment un très très vaste domaine. Est-ce qu'il faut préciser que ces journées sont ouvertes à tous et que pour y assister, il suffit de vous inscrire en allant sur le site association.histoire. On le redira vers la fin de cette émission si vous n'aviez pas noté.
Évidemment, quant aux conférenciers, ils sont trop nombreux, une grosse trentaine je crois pour les mentionner tous. Citons simplement Alexandre Gady, qui est votre invité aujourd'hui.
Alexandre Gady parlera la semaine prochaine donc de la fabrique de la ville en Europe, de la Renaissance aux Lumières. Ça nous a donné l'idée d'une émission qui évoquerait ces merveilles des grandes villes, ces grandes places, ensemble parfait d'architecture et d'urbanisme qui font aujourd'hui encore notre admiration.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
C'est une expérience que je vous conseille si vous ne l'avez déjà faite. Promenez-vous de nuit sur une grande place abandonnée par la foule et la circulation de la journée, au milieu d'un de ces grands décors de pierre rendus à sa splendeur native. L'harmonie, l'espace, la symétrie, les perspectives, la beauté des ornements comme la perfection des volumes, ces pavés qui se reflètent dans les fenêtres, ces pilastres qui rythment les façades, ces frontons cachant plus ou moins les toitures alentour, ici des lanternes d'angle, là de somptueuses grilles, les places royales sont à nos villes ce que les grands salons étaient aux appartements d'autrefois, un lieu de prestige et d'échange, de rencontres et d'aération. Je les ai toujours aimés pour ma part, ces places. Je pense à la place Gralin de Nantes, vous savez, en hémicycle, à la place des Terreaux de Lyon tout en longueur, à la place la toute rose place du Capitole de Toulouse, à l'ocre place Albertas d'Aix-en-Provence, à la place Stanislas à Nancy, évidemment, avec ses ferronneries rocailles, à la place des Héros d'Arras dont je parlais à l'instant avec Patrick Roger, avec sa collection de pignons flamands, à la très ouverte place de la Comédie à Montpellier, et à Lille, la très fermée place aux Oignons, une merveille. Sans oublier ma préférée, la sublime place de la Bourse de Bordeaux, éployant face à la Gironde le rideau interminable de ses façades de pierre blonde. À Paris, chaque roi Bourbon a bâti sa place. Henri IV et Louis XIII ont imposé la place Dauphine et puis la place Royale, que nous appelons aujourd'hui la place des Vosges. Nous allons y venir dans un instant. Louis XIV a créé la place des Victoires, tout en rond, et la place Vendôme aux élégants pans coupés. Louis XV a voulu la place qui porte à son nom avant de devenir place de la Révolution puis place de la Concorde. Je vais tout à l'heure vous raconter son histoire, l'histoire de cette place de la Concorde. Quant à Louis XVI, il envisageait, au moment où a éclaté la Révolution, de créer une superbe esplanade en lieu et place de la Bastille. Ça ne s'invente pas. Au milieu des places trônent souvent de puissants monuments, des obélisques, des colonnes, des fontaines, des bassins, ou le plus souvent des statues, souvent des statues équestres d'ailleurs, statues ou monuments emblématiques d'une province, d'un règne, d'un épisode de l'histoire ou d'une idée qu'on voudrait voir durer. C'est l'Arverne Vercingétorix à Clermont-Ferrand sur la place de Jaude, c'est la porte Guillaume en forme d'arc de triomphe sur la place d'Arcy de Dijon. Chaque place a son histoire pour ne rien dire de toutes les petites histoires qui s'y sont déroulées en secret, sans laisser de traces dans les annales. L'une des plus charmantes comédies de Pierre Corneille, parce que s'il le fallait, je rappelle que Pierre Corneille, n'est-ce pas, n'a pas écrit que des tragédies. L'une de ces charmantes pièces s'appelle « La place royale ». Elle date de 1634, c'est-à-dire juste avant le Cid, et elle ne met en scène que des adolescents. On y parle d'amour et d'émoi juvéniles sous les arcades de la fameuse place royale, donc qui est devenue notre place des Vosges. À l'époque, c'était l'épicentre de la vie parisienne, ce qui nous ramène à la fonction première de la place, celle d'une agora, d'un forum, d'un lieu de rencontre et de discussion. C'est justement de cette place royale, décor strict de pierre et de briques, que je vous propose de partir en compagnie d'Alexandre Gady à la découverte de quelques-unes de ces places merveilleuses qui font la fierté des villes d'Europe et constituent le plus beau témoignage de toute une civilisation.
Extrait sur Europe 1 de l'Allegro. Dendel, à tout de suite pour parler des places royales.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec nous aujourd'hui sur Europe 1, Alexandre Gady, historien de l'architecture. Il enseigne l'histoire de l'art à l'université Paris 4 Sorbonne et il est auteur notamment des hôtels particuliers de Paris disponibles chez Parigramme.
Bonjour Alexandre, bonjour. Merci d'être fidèle au poste. Alors, nous allons parler de ces places dont il faut peut-être d'emblée expliquer qu'elles ne sont pas un lieu par défaut dans une ville. Ça n'est pas seulement un carrefour, ça n'est pas un espace vide, une place. C'est une véritable création et c'est un lieu à part entière, en vérité.
Absolument, et c'est ce qui rend un peu difficile l'histoire des places royales, parce que dans le programme que les rois successifs, dont vous parliez tout à l'heure, ont voulu porter, il fallait faire des choix financiers. Par exemple, ériger la statue du prince, qui est le moteur souvent de la création de ces places. Il y a un premier débat qui vient, c'est est-ce qu'on la met dans un carrefour, une place existante, ou alors est-ce qu'on va prendre le temps et l'argent d'aménager un espace tout exprès pour elle ? Et ce qui veut dire ce que nous appelons aujourd'hui des expropriations, à moins de se mettre en dehors de la ville, si on veut rester dans le centre, pousser les maisons existantes, donc faire sa place.
Et il faut faire un trou à l'emplacement où Absolument. On veut faire une place, hein, par définition. Et souvent, au Moyen-Âge, évidemment, on avait suraccumulé des maisons, même à la Renaissance. Et donc, créer une place, c'est d'abord exproprier un quartier. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître.
Hein. C'est la vieille histoire des intérêts privés et des intérêts
ben
publics,
oui, voilà.
Puisque vraiment, l'espace public doit trouver une dimension qui peut correspondre véritablement à un usage collectif. C'est d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de la place Louis XV, la place de la Concorde. Quand Louis XV a lancé l'idée en 1748, enfin on l'a fait lancer l'idée par d'autres, la monarchie fait les choses de manière très habile, on a imaginé un petit concours qui en réalité a suscité énormément de réponses et la plupart des gens ont rasé des morceaux entiers de Paris. Louis XV a dit mais ces gens sont fous, je peux pas déranger le commerce, les citoyens, et du coup on a choisi un terrain hors la ville, c'est-à-dire l'actuelle place de la Concorde.
C'est ce qu'on va raconter voilà. Tout à l'heure évidemment. Ouais. Alors pourquoi parle-t-on de place royale ? Est-ce que la place royale est différente d'autres types de places ?
Alors là c'est le cœur de la définition si on veut vraiment ouais. suivre un fil rouge dans ce propos, c'est effectivement ce que les historiens considèrent plutôt comme une chose française. Là, nous avons une spécificité française, non pas qu'il n'existe pas en Europe d'autres places avec des statues, mais d'abord souvent elles ont été faites après et sur le modèle français. Pas esthétique, mais un modèle politique, parce qu'on va y venir, il y a un sens politique.
J'ai un cas à l'esprit, pardon, c'est la place d'Amalienborg à Copenhague, où nous étions avec l'équipe d'au cœur de l'histoire il y a quelques temps, et quand on se trouve dans une des rues adjacentes, qui sont des rues en contrebas, on a une impression extrêmement théâtrale, puisque la place est entourée d'un véritable portique, et qu'au milieu de ce portique se trouve la statue équestre du souverain. C'est très très spectaculaire, on n'a même pas ça en France, à ce degré-là de mise en scène, si
non,
je puis dire. Hein.
Non, tout à fait, mais c'est vrai que un certain nombre de places de pays européens ont été faites sur le modèle français. D'ailleurs, ce qui nous amène aussi à dire tout de suite que beaucoup de pays ont refusé ce modèle.
Et
ont
oui.
considéré que c'était une forme extrême de pouvoir et que, par exemple, l'empereur, le Habsbourg, lui, il dit « moi je fais des statues pour le bon Dieu, je fais pas des statues pour moi ». Donc, il y a le contre-modèle français, mais il y a un modèle français très clairement. Il suffit de penser à Bruxelles, par exemple. Et donc, cette place royale française, sa spécificité, c'est qu'elle prétend que la statue du souverain, c'est pas une invention française, pour le coup, ça c'est vraiment une invention que les Italiens ont mis sur l'espace public à la Renaissance, elle doit s'accompagner d'un traitement particulier. On n'y est pas venu tout de suite, hein. Les historiens ont raconté une histoire un peu trop rapide. On a pensé que la première place était la place Dauphine. Il y a la statue d'Henri IV sur le pont Neuf, tout le monde connaît, et en face, il y a la place.
Qui est un peu triangulaire, on va dire.
Voilà, qui a la forme de la pointe de l'île, que Breton comparait audacieusement à un sexe de femme, vous le savez. Et donc, en réalité, moi, en retravaillant là-dessus, je me suis dit, au fond, non. La place Dauphine, c'est une place autonome. Elle avait un usage, d'ailleurs, c'était la place des Orfèvres.
Vous ça peut penser à certaines places espagnoles, entre parenthèses, hein, on
oui,
est dans
avec
cet esprit.
Et puis voilà, cet esprit aussi coloré qu'on aime beaucoup dans l'architecture d'Henri IV. Mais la statue, elle est sur une place aussi, c'est-à-dire ce que nous appelons, nous, le terre-plein, et que les contemporains appelaient la place du cheval de bronze. Donc pour eux, c'est clair, il y a deux espaces. Il y a la place Dauphine, où il y a des maisons avec des habitants, des commerces, et puis il y a l'espace royal. Autrement dit, la première fois en France qu'on a érigé la statue d'un prince, non pas sur une façade, type château de Blois ou au Louvre, mais dans l'espace public, eh bien, on a choisi un espace totalement vide. Et on a choisi un espace qui est aussi un passage. Le Pont Neuf, tout le monde le sait, c'est l'autoroute de l'Ancien Régime à Paris. On y trouve toujours du monde, jour et nuit. Et c'est ce qui a inspiré, par exemple, la statue du grand électeur de Berlin. On l'a placée sur un pont. Alors aujourd'hui, elle est à Charlottenburg, dans la cour d'honneur.
Elle a été déplacée.
Elle était sur le pont du château, en face du château de Berlin.
Donc, on est en train de découvrir une première dimension de ces places. Et quand on passe en voiture devant, on a tendance à l'oublier. C'est qu'elles sont d'abord l'affirmation d'un pouvoir et qu'elles ont une véritable signification symbolique et politique.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et nous vous proposons cet après-midi sur Europe 1 une jolie promenade à la découverte des grandes places classiques.
Eh oui, alors ces grandes places, on va dire les places royales, puisque ce sont celles qui nous intéressent et qui vont permettre de faire la distinction, parce qu'il y en aurait tellement sinon de belles places à évoquer, bien entendu. En s'en tenant aux places royales, évidemment, on limite le nombre. Il y en a de célèbres en France quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de Paris, mais il y en a ailleurs, hein, évidemment.
Pensons à Rennes, l'admirable place en face du palais de justice. Pensons à Bordeaux, vous avez cité la place de la Bourse, merveilleuse en face de la Garonne. On connaît peut-être
cette place de la Bourse qui est une sorte qui fait une sorte de grande accolade comme ça, magnifique face au fleuve, c'est très très spectaculaire.
Ça, c'est la grande idée de Gabriel Père quand il est arrivé à Bordeaux, il a compris que c'était là qu'il fallait se mettre face vraiment à cette Garonne immense. Il y a plus de 500 mètres de recul. Hein. Et puis on oublie peut-être trop souvent, parce qu'on va à Reims pour la cathédrale, qui a au chevet de la cathédrale de Reims une magnifique place royale qui a gardé son nom de place royale et une statue qui a été refaite bien sûr après la Révolution, mais qui rappelle d'assez près le monument de Louis XV.
Alors il y en a qui ont souffert évidemment, qui ont été refaites, remaniées. Je pense à la place Bellecour, par exemple, qui évidemment n'a plus sa splendeur native.
Non, on est un peu loin du,
à Lyon, là,
du modèle de voulu par Louis XIV. Il reste, je le signale, parce que quelquefois les statues, la plupart du temps, hélas, ont été détruites par les Jacobins, mais en revanche, souvent les piédestaux, quelquefois les décors des piédestaux sont restés, et c'est le cas à Bellecour, où les deux fleuves, le Rhône et la Saône, qui sont des pièces merveilleuses de Coustou, sont toujours là en place, ce sont les bronzes originaux.
Alors les statues étaient souvent des statues équestres. Ça, c'est une tradition qui remonte à l'Italie, d'ailleurs, essentiellement. Hein.
Absolument, puisque bon, la grande réforme vraiment de la Renaissance italienne, ça a été de renouer avec ce qu'on avait pris longtemps pour le Constantin, et qui est en fait, bien sûr, le Marc Aurèle du Capitole, que Michel-Ange installe somptueusement.
Statue antique,
voilà,
équestre.
Seule grande statue antique équestre qui ait réchappé des destructions diverses. Et c'est un modèle que Louis XIV, par exemple, va beaucoup adopter, notamment pour sa grande statue, la plus grande du monde à l'époque, au Corico, comme d'habitude, Place Vendôme, hein, colosse de bronze de 16 mètres. Et donc la statue est souvent équestre. Avec le XVIIIe siècle apparaît quand même la possibilité d'une statue pédestre qui paraît dans le discours du tourné vers le public et vers le citoyen, un souverain moins agressif. Et bien à cheval, vous êtes sous le cheval, c'est une position qui est écrasée. Tandis que le rapport avec un piédestal moins haut et une statue pédestre peut créer une proximité avec le prince qui sied assez bien en caractère de Louis XV, par exemple. Louis XV est à pied à Rennes, dans l'hôtel de ville. Aujourd'hui, la niche est vide. Mmh. Il est à pied à Reims. Et il est exceptionnellement à cheval à Paris, mais passant, un cavalier pacifique.
Alors on va venir à cette statue de Paris et à son célèbre piédestal avec les vertus, bien entendu. Mais la seule statue dans Paris, la seule statue équestre de souverain en dehors de ce vert galant dont vous nous parliez, à la pointe de l'île de la Cité, c'est Louis XIV, place des Victoires. Finalement, c'est
alors il y avait un très beau Louis XIII en bronze, place des Vosges, donc la fameuse place royale dont vous avez
de
parlé
Corneille,
tout à l'heure.
Oui.
Dont Corneille a parlé. Et c'est vrai que cette statue est pour moi une des plus touchantes. D'abord parce que tous les contemporains s'en moquaient parce que le cheval était arrivé d'un héritage et le cavalier avait été fait ensuite. Donc il y avait un problème de rapport d'échelle que tout le monde trouvait évidemment assez cocasse. Mais ce qui est émouvant, c'est que le cheval était un cheval de la Renaissance et qu'il avait été préparé par un élève de Michel-Ange pour Henri II. C'est-à-dire qu'en fait, Catherine de Médicis avait la première trouvé que, comme dans son pays, c'est-à-dire la Toscane, il serait bien de rendre hommage au roi de France par un groupe équestre. On avait carrément, évidemment, été chercher un grand sculpteur italien, élève de Michel-Ange. Et puis, voilà, le cheval s'est fait, jamais le cavalier. En fait, on a réussi à récupérer le cheval sous Louis XIII et Richelieu a commandé la statue de son maître pour aller dessus.
Ce qu'il faut dire et qui est assez extraordinaire, c'est que très souvent, la place est faite avant les constructions qui viennent la compléter. C'est-à-dire qu'on fabrique les façades, je pense à la fameuse place royale dont on parle, cette place royale d'Henri IV, c'est le cas de bien d'autres, ça a été le cas place Vendôme, évidemment aussi place de la Concorde, on va en parler dans un instant. En fait, on construit la façade, on crée le décor de la place autour de la fameuse statue centrale, et le décor est comme une sorte d'écrin pour le joyau que serait la statue, et puis ensuite, eh bien, on vient fabriquer des maisons qui viennent se coller sur les façades. Ça paraît complètement fou comme façon de procéder.
Oui, et en même temps, c'est le révélateur de la grande difficulté de ces places. C'est que ça représente un coût tellement important. En général, la statue est payée par la ville. Elle reçoit l'ordre discrètement de faire cette commande. Donc la ville a déjà dépensé beaucoup d'argent, un monument équestre en bronze. Rien que techniquement, la fonte, c'est vraiment un coût énorme. Ensuite, il faut aménager l'espace, le pavé, l'éclairer, etc. Et ensuite, il y a un choix. Et là, l'ambiguïté se résout par le décor. C'est qui va habiter sur une place qui rend hommage au monarque? C'est une question très sensible.
C'est une question politique.
C'est une question politique. Est-ce qu'on peut, par exemple, être la statue du prince aux halles, au milieu des marchands et des poissonniers? Il y en a qui pensent que oui, que le roi était bien partout. Il y en a qui pensent que le roi doit être dans les beaux quartiers ou autour de entouré par ses seigneurs, type place Vendôme, qui sont d'ailleurs plutôt des banquiers que des grands seigneurs. Et puis, il y a ceux qui pensent que, par exemple, comme Louvois, il vaudrait mieux des bâtiments. On est bien en France, administratif que privé. Des bâtiments publics, c'est la première place Vendôme qui a existé avant notre place actuelle et qui était bordée dans le projet royal uniquement d'administration.
Aujourd'hui, il y a encore le ministère de la Justice, mais enfin bon.
Oui, mais c'est tout ce qu'il est resté du premier programme où il devait y avoir la bibliothèque royale, l'hôtel des ambassadeurs et la monnaie, etc. Et donc, pour trancher cette ambiguïté, la monarchie s'occupe véritablement du décor urbain, c'est-à-dire qu'en général, on fabrique les façades dans le vide. Et même pour l'inauguration des statues, on va jusqu'à faire des façades en toile peinte sur des châssis pour que ça donne tout de suite l'effet général. Et ensuite, terrain à vendre. Simplement, il faut que les particuliers acceptent de venir se coller derrière la façade.
Se lotir derrière des décors, en fait.
Exactement. Ça veut dire que tous les niveaux de plancher sont déjà réglés, les hauteurs de toiture aussi, et qu'il est impossible de sortir du modèle.
Je suis sûr que vous n'aviez jamais vu les places sous cet angle-là. Vous voyez que c'est un sujet qui, a priori, peut paraître étrange et qui, en vérité, est d'une grande richesse.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck consacré maintenant à la place de la Concorde.
Et oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant très longtemps, jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle, Paris s'arrêtait, en tout cas pour la partie ouest, s'arrêtait au bout du jardin des Tuileries. Et à partir de là, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez, disons-le, une sorte de terrain vague, une esplanade qui servait, c'est assez étrange comme usage, qui servait de magasin au marbre de la couronne, figurez-vous. Il y avait un port d'embarquement. Vous savez qu'à l'époque, les quais de Paris n'étaient pas maçonnés comme ils l'ont été par la suite, notamment en grande partie sous la Restauration. Et donc, vous aviez des grèves, comme on disait, avec des ports de débarquement. Et c'est là qu'on débarquait tout le matériel, et qu'on embarquait aussi le matériel, tout ce marbre de la couronne. Alors, on installait les marbres sur l'esplanade. Ça faisait comme un peu comme des pierres tombales quand vous voyez les gravures de l'époque. C'est assez extraordinaire. Et surtout, on avait mis au milieu de ces pierres tombales des espèces de masures et de cabanes qui servaient, qui avaient différents usages. Mais enfin, tout ça était quand même, quand je vous parle de terrain vague, on n'en était pas très loin. Et puis, pour monter vers ce qu'on appelait la montagne de l'étoile, où se trouve aujourd'hui l'Arc de Triomphe, mais évidemment à l'époque il n'y avait rien de tout ça, vous aviez une allée assez droite, qui entre parenthèses était relativement étroite, et qu'on appelait les Champs-Élysées, précisément. Hein, vous voyez, c'était comme ça. Et dans toute cette partie-là, entre le cours La Reine, qui allait du côté du fleuve, et le haut de la montagne de l'étoile, eh bien vous aviez des cabanes, des jardins potagers. C'est là qu'un certain nombre d'ailleurs de grands hôtels du faubourg avaient leur potager. Vous aviez également des régions qui étaient assez marécageuses, des bosquets plus ou moins entretenus, plutôt moins que plus d'ailleurs. Et c'était, nous dit un chroniqueur de l'époque, le règne des vagabonds, des amoureux et des bretteurs. Voilà ce que c'était que cette région des Champs-Élysées et que cette esplanade où allait naître la future place de la Concorde. Et puis alors, tout va changer. À partir de 1744, il y a un événement très important qui est la maladie du roi à Metz. C'est que Louis XV est très malade, on est en pleine campagne des Flandres, hein, et Il est tombé malade, on pense vraiment qu'il va mourir. Le royaume entier est à genoux en prière pour essayer de sauver le roi et Louis XV guérit. Alors ça, c'est extraordinaire. Il devient du jour au lendemain le bien-aimé. Et l'année suivante, dans la campagne de 1745, avec à côté du maréchal de Saxe, Louis XV va remporter la célèbre victoire de Fontenoy. Et alors, à partir de ce moment-là, il est vraiment le roi adoré du peuple. On l'appelle Louis le bien-aimé. Cette guérison, et puis le traité d'Aix-la-Chapelle, qui en 1748 va sanctionner, d'ailleurs d'une façon assez bizarre, mais enfin, je vais pas entrer là-dedans, va sanctionner la victoire. Tout ça va donné au prévôt des marchands, c'est-à-dire, disons-le, au maire de Paris et au conseil municipal, on les appelle les échevins à l'époque, ces conseillers, eh bien, ils ont envie de faire quelque chose en faveur du roi, de le récompenser, de le célébrer, et ils demandent à sa majesté la permission de lui élever dans tel quartier qui lui plaira, donc c'est à Louis XV de choisir un quartier dans la capitale, un témoignage du zèle, de l'amour et de la reconnaissance de ses peuples. Voilà l'expression même de la missive des échevins de Paris à Louis XV. Alors, le roi, évidemment, ne peut pas refuser un tel hommage, d'accord ? Il confie au directeur des bâtiments de l'époque, ce n'est pas encore le frère de Madame de Pompadour, hein, le futur marquis de Marigny, à l'époque, c'est son oncle, si l'on peut dire, enfin bon, j'entre pas non plus dans ce genre de détails familiaux, Monsieur de Tournehem, c'est Monsieur de Tournehem qui va inviter les artistes de l'Académie à lui soumettre un certain nombre de projets. Alors, là, les projets, c'est ce que nous disait Alexandre Gady tout à l'heure, les projets fleurissent, hein, y en a de tous ordres. Certains pensent qu'il faudrait réunir l'île de la Cité à l'île Saint-Louis et créer une grande place entre les deux îles, dans ce qui est actuellement un bras de la Seine. D'autres pensent qu'il faut remanier la fameuse place Dauphine qui, justement, ne présentait pas les caractères suffisants de ce qu'on pouvait appeler une place royale, précisément. D'autres voudraient percer une sorte de grande perspective à l'allemande ou à la russe, hein, si je puis dire, en faisant un petit anachronisme, puisqu'à l'époque, on est au tout début des grandes perspectives russes. Entre l'hôtel de ville et la colonnade du Louvre. Finalement, Louis XV se dit que tout ça va créer beaucoup de problèmes. D'ailleurs, les pétitions commencent déjà à circuler dans Paris. Les riverains n'ont pas du tout envie qu'on les exproprie pour fabriquer une grande place. Il se dit qu'après tout, il y a ce grand terrain vide au bout du jardin des Tuileries qui sert à personne, qui est insalubre, qui est une réunion de gens pas très fréquentables. Pourquoi pas en faire une grande place? Et c'est comme ça que Louis XV choisit donc ce terrain vide, comme on disait à l'époque, pour y installer sa place qui va s'appeler la place Louis XV. Alors évidemment, concours d'architectes, Beaufranc, l'assurance, Tannevaux, Aubry, évidemment tout le monde se met sur les rangs. Celui qui va remporter le concours, c'est Gabriel, bien entendu, qui est premier architecte du roi. Il faut dire que Gabriel a eu une certaine intelligence. Il a, comme toujours d'ailleurs, et c'est un des traits distinctifs de son apport à l'architecture, c'est qu'il a été très humble et très modeste. Il a respecté notamment les conseil de Louis XV. Louis XV voulait que la place soit vide. Or, la plupart des architectes lui avaient installé au milieu de la place qui un grenier à grains, qui un théâtre, qui... Enfin, il y avait toutes sortes de... On voulait faire toutes sortes de choses, même qui voulait mettre un grand cirque au milieu de la place. Au moins, Gabriel fait une place totalement vide. Il y aura juste la statue du roi, bien entendu, commandée à Bouchardon, qui va devenir une statue très célèbre. Et puis, il a aussi l'idée de faire de grandes façades seulement sur un des côtés de la place. Puisque vous avez d'un côté le jardin des Tuileries, de l'autre, cette avenue des Champs-Élysées que du coup, on va se mettre à décorer et à rendre plus prestigieuse. On la replante intégralement. Et que sur le troisième côté, vous avez ces espèces de fossés qui... sépare la place de la Seine et qu'on va combler, bien entendu, pour créer de jolis quais. Il n'y a plus à créer de façade que sur la partie nord de la place, c'est-à-dire là où est la rue Royale, hein, vous voyez. Et ce sont les grandes façades que vous connaissez, qui sont les grandes façades de Gabriel, qui vont donc être construites. Alors, ces façades, évidemment, c'est le principe de ce qu'on racontait tout à l'heure. On construit d'abord les façades, puis ensuite, on vend les terrains à un certain nombre de personnes. Alors, c'est dans un premier temps le duc de Beaumont qui va acheter une partie des terrains. Alors, quand vous regardez les bâtiments, si vous partez tout à fait de la gauche, hein, de ce qui est aujourd'hui l'ambassade des États-Unis, là, le duc d'Aumont achète. Ce sera ensuite vendu à un certain monsieur de Crillon. Ce sera le futur hôtel Crillon. Toute la partie à l'angle de la place de la rue Royale va être vendue à la marquise de Coislin, ce sera l'hôtel de Coislin, ça l'est toujours aujourd'hui, même si évidemment on utilise moins ce nom. Et puis, ce sont des administrations publiques qui vont s'installer, mais plus plus tard, hein, après la mort du roi en 1775, dans la partie de droite, on va installer là le garde-meuble de la couronne. Et c'est là qu'aura lieu, vous savez, en septembre 1792, le plus grand casse de tous les temps, hein, le vol des joyaux de la couronne. Bref, peu à peu, ce qui est en train de naître sous les yeux du public, c'est une grande place royale. Qui dit place royale dit statue. La statue en question, elle va poser un certain nombre de problèmes.
Un extrait sur Europe 1 du Gloria de Vivaldi.
Alors le sculpteur Bouchardon s'est inspiré évidemment du Marc Aurèle dont nous parlait Alexandre tout à l'heure. Il s'est inspiré d'un certain nombre de modèles antiques, pas forcément de statues du reste, pour créer un Louis XV qui était à la fois le plus majestueux et le plus bonhomme possible. Et il l'a installé sur un vaste, un grand et haut piédestal dont les angles sont eux-mêmes occupés par des vertus qui elles sont debout bien entendu. Et évidemment, on va se mettre, il faut pas oublier que la place va être inaugurée très tard, vers la fin du règne de Louis XV. Bouchardon d'ailleurs est mort entre-temps, donc il ne pourra même pas voir l'inauguration de sa statue. Et à la fin du règne de Louis XV, le roi n'est plus du tout aussi populaire qu'il l'était au milieu des années 1740, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est même devenu particulièrement impopulaire et un certain nombre de rimeurs vont s'attaquer à la statue. Le plus célèbre des épigraphes, c'est « Oh la belle statue, oh le beau piédestal, les vertus sont à pied, le vice est à cheval ». Louis XV verra néanmoins inaugurer sa grande place, même si c'est sous Louis XVI qu'elle prend toute sa mesure, avec la construction donc des fameux hôtels qui vont venir étayer les façades théâtre en quelque sorte, notamment au coin de la rue de la Bonne Morue, entre parenthèses, l'ancien nom de la rue de la Boissy d'Anglas. C'était moins chic, hein, évidemment. La Révolution évidemment va tout bouleverser. Avec la Révolution, notamment, on commence par enlever la statue, ça par définition. Et l'on installe à la place une statue à la liberté, qui n'a pas laissé une très grande trace. On installe surtout, sur cette place dite de la Révolution maintenant, la célèbre guillotine. Vous savez que c'est là que seront guillotinés, entre autres, et Louis XVI et Marie-Antoinette. Donc la place prend une dimension, évidemment, particulièrement sépulcrale et assez effrayante. En 1795, certains urbanistes vont essayer de s'installer, de modifier la physionomie de la place. On n'a toujours pas comblé les fossés à l'époque, hein. Et d'ailleurs, ils ne le seront qu'encore plus tard sous l'Empire. En attendant, on trouve des moyens d'assainir la place, mais qui reste encore, et malgré les grandes constructions de Gabriel, qui reste encore relativement peu commode et relativement insalubre. Elle ne deviendra la grande place urbaine que nous connaissons, avec notamment sur les fameuses guérites, les imposantes matrones qui représentent les villes de France, vous savez. Tout ça ne se fera que sous Louis-Philippe, et ce qui viendra couronner la construction, bien entendu, ce qui viendra donner à cette place sa dimension finale, c'est évidemment l'obélisque, puisque Louis-Philippe se voit offrir par le sultan d'Égypte cet extraordinaire obélisque de Louxor. Alors je vous raconterai dans une autre émission, et ça vaut la peine, toute l'histoire du chemin, du voyage de cet obélisque, de son érection sur la place de la Concorde. Aujourd'hui, bien entendu, on n'imagine plus la Concorde sans l'obélisque. Entre parenthèses, c'est amusant parce que Louis-Philippe a appelé cette place la place de la Concorde, alors que ses prédécesseurs, Louis XVIII et Charles X, l'avaient rebaptisée place Louis XVI. Vous voyez que la place Louis XV, puis place de la Révolution, puis place Louis XVI, et finalement entrée dans la conscience collective sous le nom parfaitement consensuel de la Concorde.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec jusqu'à 14h une émission consacrée aux places royales, et vous êtes très nombreux à réagir sur le sujet, Franck.
Oui, Alain par exemple nous demande si vous pourriez nous parler, Alexandre, de la place de France, projet qui n'a jamais été réalisé mais qui, dit-il, a notablement modifié la topographie urbaine.
En réalité, Henri IV avait un programme assez large qu'on a comparé peut-être un peu rapidement aux grands travaux du 19e siècle, mais c'est vrai qu'il a une pensée assez globale. achever le pont neuf, mais aussi tracer une rue, la rue Dauphine, qui permette d'irriguer la rive gauche. Faire la place Dauphine, puisqu'on en profite pour maçonner la pointe de l'île. Faire la place des Vosges, donc la place royale, dans le Marais, à un endroit qui était devenu Girova, qui était le marché aux chevaux. Et puis, dans le nord du Marais, au moment où on sent que les lotisseurs sont en train de conquérir cette partie qui correspond à notre troisième arrondissement autour de la rue de Bretagne, le roi a l'idée d'une place en hémicycle adossée à l'enceinte, qui porterait le nom de place de France. Donc, il y a la place royale, la place Dauphine, la place de France, mais il y a aussi la toponymie,
oui, c'est
assez importante.
Très, très régalienne.
Absolument. Et l'idée de cette place, qui n'est pas une place à statut, hein, c'est une idée assez originale, au fond, que reprendra Louvois pour la première place Vendôme, c'est l'idée de placer des pavillons tous identiques, mais qui abriteraient chacun un organe du gouvernement. Donc des bâtiments, une cité administrative avant la lettre. Mais tellement belle, hein, évidemment, car on la connaît par des gravures de Claude Chastillon. Et puis, comme d'habitude, la mort d'Henri IV dérègle les affaires et en réalité les lotisseurs gardent l'idée vague de noms de rues qui portent les noms des provinces de France. Vous avez toujours aujourd'hui un certain nombre de rues, je citais la rue de Bretagne, la rue de Saint-Onge, etc. Et puis ça termine tout simplement par un lotissement banal et pas de place.
C'est amusant parce qu'on a tendance évidemment à accorder une très grande importance aux églises, aux basiliques, aux cathédrales, et on a vu l'importance qu'elles avaient eue notamment au XIIe, XIIIe siècle, etc. dans la construction même de l'espace collectif. On a vu, on a donné toute sa place aux châteaux et aux différents types de châteaux à travers les siècles, etc. Et on a tendance à négliger ces places qui sont, d'après ce que vous nous dites, peut-être l'emblème de la monarchie absolue et de cette espèce de centralisation à la française qui va ensuite faire des petits dans toute l'Europe.
Tout à fait, je crois que cette dimension...
Et même aux États-Unis, si on veut aller par là, etc.
Cette dimension, elle est perdue pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent d'abord, vous l'avez bien montré avec la Concorde, les noms ont changé.
Oui, ça c'est vrai.
Ensuite, les statues abattues par les Jacobins et fracassées pour faire ensuite récupérer le bronze, tout ça, évidemment, a enlevé l'objet central du culte, si vous voulez. Bien, troisième élément qui est encore plus sensible, par exemple, à la Concorde qu'ailleurs, c'est l'aspect des changeurs autoroutiers que sont devenus ces grandes places dans nos villes saturées de voitures.
En fait, voilà.
Donc aujourd'hui, la place de la Concorde, qui était une place en dehors du cœur de Paris, piétonne et calme, où on allait se promener, est devenu
qui était une
l'enfer.
Sorte de... Mais il suffit d'aller place Stanislas à Nancy pour se rendre compte, avec ses extraordinaires ferronneries, hein, tout
dans
à fait
l'amour,
de l'amour,
sûr, ouais.
Pour se rendre compte de ce que peut être l'effet d'une place lorsqu'elle n'est justement pas ouverte à la circulation. Et c'est un endroit où l'on vient méditer quasiment, hein. C'est un endroit hors de la ville. Or, quand on est place de la Concorde, effectivement,
on pense d'abord
chose...
à sa ville.
On risque de se faire écraser, ça roule dans tous les sens, bien entendu.
Et Henri IV, puisqu'on le cite beaucoup, a inventé les premiers trottoirs sur le pont Neuf pour que les piétons, justement, qui prennent le temps de voir la vue merveilleuse sur la Seine, ne soient pas en train de se dire « un carrosse arrive derrière et c'en est fini de moi ». Donc il y a cette idée aussi de la promenade qui se dissocie effectivement de la circulation. Et dans les places royales, c'est aussi une des questions qui est posée. Est-ce qu'on traverse ou est-ce qu'on ne traverse pas ?
Alors on a tendance à citer toujours les architectes des places. On oublie les sculpteurs, puisqu'encore une fois, le joyau de la place, c'est la statue centrale. Et alors là, il faut citer les grands artistes. Hein. Évidemment, j'ai cité Bouchardon tout à l'heure, mais il est loin d'être le seul, bien
alors,
entendu. Hein.
Sous Louis XIV,
Coisevaux.
D'abord, évidemment, le grand Coisevaux, hein, qui va faire la statue destinée à Nantes, et qui, comme l'obélisque, n'arrive jamais. Et donc, elle finit par s'arrêter à Rennes, donc où elle était devant le palais de justice actuel. Il faut citer des gens moins connus du grand public aujourd'hui, comme Le Hongre, qui va faire la statue de Dijon. Et puis, bien sûr, la statue de la place Vendôme est faite par le grand François Girardon, un des maîtres de l'art versaillais, et qui était vraiment une statue, manifestement. Vous savez, souvent, on en conserve encore des petits modèles lits de bronze, qui étaient faits d'ailleurs quelquefois par l'artiste lui-même. Donc, ils font en général un mètre de hauteur. Celui de Girardon, pour la statue de Louis XIV, est conservé au Louvre. Donc, tout le monde peut le voir encore aujourd'hui. Et Pigalle, l'élève qui a terminé la statue de Louis XV de Bouchardon, fera faire des petits tirages dont un des plus beaux se trouve dans le cabinet de la pendule à Versailles.
Alors évidemment, oui, ce qui permet d'avoir une idée très précise de ce que ça pouvait être. Peu à peu, la notion de grande place et de place royale par définition va disparaître, mais on continue de faire de grandes places. Napoléon, bien sûr, Louis-Philippe, et puis Napoléon III, ô combien, et même la Troisième République vont continuer hein, ce travail d'urbanisme.
À la fois les grandes places, qui peuvent accueillir des édifices publics, faciliter la circulation. Haussmann, c'en est fait un des chantres, évidemment. Pour les statues, c'est plus compliqué.
Eh oui.
Et par exemple, Louis-Philippe prend très...
Comme souvent, on perd dans la symbolique. Hein.
Voilà, il prend très grand soin, par exemple, pour annuler l'effet tragique de la place Louis XV, devenue révolutionnaire, devenue place Louis XVI sous Charles X, prend soin de prendre un monument qui n'a rien à voir avec l'histoire de France. L'obélisque, c'est neutre, ni la droite, ni la gauche, ni le centre ne peuvent se révolter.
Très Louis-Philippard.
Voilà, très Louis-Philippard. Mais c'est vrai que les destructions de statues qui ont été opérées... au cours du XIXe siècle, à chaque changement de régime, donne aussi le tournis pour l'historien ou pour le piéton. Et je voudrais prendre un exemple que peu de gens connaissent. Lorsque la République a besoin de s'aménager son propre espace symbolique à Paris, elle va d'abord édifier à la place du Château d'Eau, vous parliez des matrones, la grosse Dondon qui n'est pas très
la
jolie,
place de la République,
des frères Maurice. Mais en revanche, elle commande au Grand Dalloun, qui est en ce moment à la fête par son exposition magnifique au Petit Palais, une magnifique statue où la République est sur son char, dans un char assez monarchique, et quand vous traversez la place de la Nation et que vous allez voir sous les roues du char, je ne sais pas s'il faut recommander ça à l'antenne d'Europe 1 parce que c'est dangereux, eh bien vous voyez que Dalloux a pris soin de faire rouler le char sur une couronne et un manteau de sacre, et ce sont le manteau de sacre et la couronne de Napoléon III.
Ah, la politique, la politique.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi.
Jacques Brel sur Europe 1 avec Sur la place.
Ah oui, et celles-là, ce sont des places ensoleillées qui font rêver l'homme du Nord, bien entendu. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de l'étranger, hein, il faut bien dire, Alexandre Gadi. Je rappelle que la conférence que vous allez donner dans le cadre des 10e journée de l'histoire de l'Europe va bien parler de l'Europe, hein, d'une façon générale, comme toutes ces conférences qui seront données. Alors j'ai le programme, on ne peut pas parler de tout le programme, hein, parce qu'il y a énormément de conférences, mais pour l'avoir, ce programme, et pour vous inscrire et pour participer, il vous suffit d'aller donc sur le site de l'Association des historiens, et c'est le site en question est facile, c'est association.histoire.free.fr. Donc ça vous permet d'assister à ces conférences qui auront lieu vendredi 31 mai et samedi 1er, c'est-à-dire la semaine prochaine, en fait, à la fin de la semaine prochaine. Alors, un mot sur l'Europe. Il y aurait un contre-exemple à donner, ce sont les petits campi vénitiens. Hein. D'ailleurs, moi, lundi soir, puisqu'on est dans les annonces
vous
à l'antenne,
raison.
Lundi soir, l'ombre d'un doute sera à Venise et nous vous ferons survoler un millénaire d'histoire
c'est
vénitienne.
C'est en prime.
Oui, c'est en prime, 20h45 sur France 3. Donc, en dehors de toutes ces places du sud de l'Europe qui étaient plutôt des places etc. On a aussi de grands modèles de places royales et celui que vous évoquiez, c'est Lisbonne en l'occurrence.
À Lisbonne, après le tremblement de terre qui a stupéfié l'Europe, vous savez, en 1755, la reconstruction de la ville poussée par le marquis de Pombal a aménagé un espace sur cette ancienne place qui était au pied du château royal et l'architecte Machado de Castro a réalisé un espace assez fascinant qui est toujours intact aujourd'hui face au Taj. Il est en cours de restauration. Nos amis portugais ont fait une grande opération d'urbanisme avec ils ont chassé les voitures et puis ensuite en ce moment la statue est en cours de restauration, elle sera inaugurée prochainement. Et ce qui est très beau, c'est que quand on va à Lisbonne, dont l'architecte avait dans sa bibliothèque beaucoup d'ouvrages français, on revoit la première place Vendôme. On a dit tout à l'heure qu'il y avait eu deux places Vendôme, une a été un échec, en réalité elle a été supprimée pour faire l'actuel octogone, et c'était une place en forme de forum ouvert au sud sur la rue Saint-Honoré, et la statue de Louis XIV avait l'impression, on avait l'impression que le cavalier était passé sous un arc de triomphe. Et ce modèle se retrouve, puisque quand on arrive au fond de la Baïcha, il y a cet arc de triomphe et la statue du roi Joseph face à la mer, face à l'Empire, évidemment.
Extraordinaire.
Ça donne quand même une idée de la puissance de la représentation politique dans ces espaces.
Il faut dire que nos sculpteurs ont un peu essaimé. Hein. Ils ont travaillé pour un peu toutes les cours, notamment du Nord et de Russie aussi, il ne faut pas oublier. Hein.
Le fameux Falconet, que les bolcheviques, eux, n'ont pas fondu, à la différence
de Pompadour,
nos jacobins, puisqu'ils ont gardé la belle statue de pierre à Saint-Pétersbourg sur la Neva.
Qui est sur son rocher, là, extraordinaire.
Les Français croient toujours que l'Europe a copié Versailles, mais on ne trouve pas d'architecture française en Europe. En revanche, on trouve des boiseries, des meubles et des statues.
Et oui, c'est ça, en fait. Ce sont surtout et des tableaux, il ne faut pas oublier. Hein. Ce sont nos peintres, nos sculpteurs, nos architectes qui se sont expatriés.
Et on a, avec Falconet, un exemple de cette mode française des grandes statues.
Merci beaucoup Alexandre Gadi, vous en direz bien plus samedi prochain, j'imagine c'est samedi hein, la
c'est
conférence
samedi,
pour ce qui vous concerne. Je rappelle évidemment parmi vos publications les hôtels particuliers de Paris, donc ça c'était chez Parigram, et puis ça c'est magnifique parce qu'enfin un ouvrage sur Versailles qui s'intéresse non pas seulement à l'histoire du château mais à l'histoire architecturale du château, c'est fondamental et ça s'appelle Versailles, la fabrique d'un chef-d'œuvre aux éditions du Passage en coédition avec le château de Versailles. Merci beaucoup. Merci. Alexandre, on a parlé des places aujourd'hui, la prochaine fois on parlera des rues et des avenues par exemple.